chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Si vous décidez de vous rendre en Bavière, ce pays magique avec ses châteaux de contes de fées, vous vivrez ce voyage comme un songe. Vous n'échapperez pas à Neuschwanstein, jugé tout en haut de son promontoire qui dresse fièrement toutes ses tourelles, ses créneaux et son donjon, ni à Linderhof, bâti en hommage à Louis XIV. De Louis II de Bavière ne reste souvent en mémoire que la figure d'un roi fou, mise en scène par Visconti. Une fois dans son fief, le sud de l'Allemagne, on découvre que la ferveur populaire ne l'a pas oublié. Neuschwanstein, sa résidence la plus courue, attire une foule de touristes. Mais quand on y grimpe, en décembre, sans la foule, les yeux rivés vers ces tourelles d'opérette dont Disney s'inspira pour imaginer le château de la Belle au Bois dormant, que l'on suit le chemin étincelant de neige sous un ciel cristallin, on entre de plein pied dans le conte. Pour un décor plus guiré, programmez la découverte de Linderhof, bâti en hommage à Louis XIV. De proportions exquises, ce petit palais, le seul à avoir été achevé en 1878 du vivant de Louis II, prend en hiver des allures féeriques. Enchâssé dans un paysage immaculé, il scintille, autant à l'intérieur avec ses lustres d'ivoire et de cristal et ses enchevêtrements de bois rococo dorés qui se reflètent à l'infini dans les miroirs, un bijou d'artifice où l'on réalise que Ludwig aurait fait un excellent décorateur de cinéma. L'impression se confirme. À Hérèmes-Kimsey, la plus achevée de ses folies, bâtie sur une île et où il ne résida que 10 jours, la copie de Versailles y est si méticuleuse que lorsque la véritable galerie des glaces a été remise dans son état d'origine, les restaurateurs sont venus relever à Hérèmes-Kimsey les détails qui manquaient dans leurs archives. La visite est troublante. Copie parfaite, mais copie quand même. Tout le décor ou presque est bâti en stuc. On y découvre aussi une galerie de photos du roi qui passa vite, tel un Elvis germanique, de la rockstar étincelante à l'idole déchue, très bouffie par l'absinthe. En contrepoint de cet univers exalté, il faut aller faire un tour au pavillon de chasse d'Amalienburg, dans le parc du château de Nymphenburg à Munich. chef-d'œuvre maîtrisé du rococo bavarois, dessiné au XVIIIe siècle par le génial François de Cuvilliés, belge d'origine. Et plaisir, plus terrestre encore, siroter du vin chaud aux épices sur les marchés de Noël. En décembre, les rues de Munich sentent la cannelle et les branches de sapin. Emmanuel Perret, envoyé spécial à Schwangau, raconte pour le journal Libération du 1er août 2014 Louis II et ses châteaux qui trônent entre monts et forêts. Pauvre Louis! C'est peut-être là qu'on le voit le mieux, au pied de ce château carré et sans grâce, au bord du lac de Starnberg, eau sombre bordée de villas ultra cossues. Là où il a trouvé la mort de façon très mystérieuse, avec son psychiatre, en 1886 à 41 ans. Mourir avec son psychiatre, ça fait rêver. Louis II de Bavière, le roi fou, le roi wagnérien, le roi bâtisseur de châteaux, l'a fait. Au fond, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans ce coin lacustre et bucolique d'Allemagne ce jour de juin, sinon que le roi, destitué pour paranoïa, y avait été emmené par ses ministres, consterné par la dérive financière et politique du royaume, son désintérêt total pour la politique et son incapacité à se passionner pour son peuple. Et qu'il meure, gros, bouffi, avec son psychiatre Bernard von Guden, lors d'une petite promenade après un goûter copieux et très arrosé. Les deux hommes se seraient battus, comme en témoigne l'autopsie du psychiatre qui porte des traces autour du cou. Mais pas le roi. C'est là le crépuscule des dieux. Une petite chapelle atteste de cette mort tragique. Cette très modeste chapelle est là pour contrer un peu l'effet wagnérien des trois châteaux qu'il a fait construire en 22 ans de règne et qui chacun témoigne de ses obsessions. Neuschwanstein d'abord, en hommage à Wagner et à la mythologie germanique. Lindorf et son pavillon de chasse Valkyrie, qui attestent de son amour fou pour l'auteur de Lord Nibelungen et de son admiration pour Louis XIV. Et enfin le château de Herrenchiemsee, entre Munich et Salzbourg. À nouveau une ode au roi soleil et à l'absolutisme royal. C'est plus ou moins une copie de Versailles. Le seul vrai roi de ce siècle, d'après Verlaine, devenu un mythe, meurt donc dans un mystère, et naît dans le lumineux château de Nymphenburg à Munich. Une petite merveille, pourvu qu'on aime le style baroque, l'ancienne résidence de la famille royale des Wittelbach, la famille de Louis, celle de Sissi aussi, sa cousine adorée, dont le père possédait le château de Possenhofen, au-dessus du tragique lac de Starnberg. Les deux cousins qui souffrent chacun à leur manière de la pesante étiquette des cours royales du XIXe siècle germanique s'y retrouvent souvent sur l'île aux roses au milieu d'un lac. En ce jour de fin de printemps, il fait tellement froid et pluvieux qu'on n'a pas pu s'y rendre, mais elle est indiquée au milieu de la forêt et des sentiers qu'ont sans doute emprunté les deux monarques. On les imagine derrière le rideau de pluie, dans le film wagnérien et sombre de Visconti, Ludwig ou le crépuscule des dieux, on les voit deviser près des chevaux tant aimés de la cousine Élisabeth d'Autriche, mal mariée à Franz, et fort malheureuse à Vienne, comme Louis le fut dans les affaires politiques de sa Bavière. Mais on s'égare.
Thank you.
Dès le début de son règne, Louis II a la tâche de faire face à la politique audacieuse du chancelier de Prusse, Otto von Bismarck. Son chancelier, Ludwig von der Storten, place la Bavière aux côtés de l'Autriche en 1866. Mais la bataille de Sadowa en 1866 expulse l'Autriche de la sphère proprement allemande et met fin à la Confédération germanique. Il appelle alors à la chancellerie Schuldwig de Hohenlohe qui range la Bavière aux côtés de la Prusse pendant la guerre de 70 contre la France. La défaite française de 1870 va achever l'intégration du royaume de Bavière à l'empire allemand naissant. Profondément francophile, Louis II était un admirateur de la monarchie absolue du XVIIIe siècle, de Louis XIV et de Marie-Antoinette. Le roi était plus que réticent à ce que son royaume se joigne au nouvel empire allemand, sous la direction des Prussiens qu'il haïssait. Mais il était par ailleurs acquis aux idées libérales et souhaitait l'union allemande. Le chancelier Otto von Bismarck rédige pour lui la Kaiserbrief du 30 novembre 1870, par laquelle le roi Louis proposerait, au nom de la Bavière, la couronne impériale au roi de Prusse. Ces compensations financières sont prévues pour Louis II à travers l'héritage des Guelfes, somme réunie à la suite de l'annexion du Hanovre par la Prusse en 1866. Il se résout à la signer. Il fut le seul souverain allemand absent à la cérémonie de l'unification de l'Allemagne dans la galerie des glaces du château de Versailles le 18 janvier 1871. Son frère, Othon, l'y représenta. À la suite de cet échec signant la fin de la Bavière indépendante, négligeant les devoirs de sa fonction pour s'adonner à ses rêves, il parle des fadaises d'État et vivant de plus en plus reclus, le roi dépense sans compter dans la construction des châteaux de Bavière. Confronté aux dépenses exorbitantes du souverain, les différents gouvernements bavarois soutenus par la famille royale cherchèrent alors à l'évincer du pouvoir. À partir de 1875, il vit la nuit, faisant souvent des promenades avec des chaises ou des traîneaux à la pointe de la technique, parfois vêtus de costumes historiques, comme les valets qui l'accompagnent. Imaginez cet attelage, sillonnant les routes de montagne traînées à vive allure par deux chevaux blancs, escortés de deux cavaliers, et Louis II, emmitouflé de fourrure, laissant errer son regard rêveur sur ces paysages fantasmagoriques au milieu de la nuit bavaroise, éclairée faiblement par le halo de la pleine lune. Dans sa dernière lettre à Wagner, le roi exprime son désir d'assister à une représentation de Parsifal, mais, demande-t-il, sans cri du public, et chante une dernière fois la lumière victorieuse du génie. Quant au génie en question, lui aussi juste avant de mourir, il rend grâce dans son ultime lettre à son sublime bienfaiteur, à ce roi donné par Dieu. Et Emmanuel Perret de conclure, difficile de dire mieux que Wagner. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour d'autres émissions de Bienvenue chez le Roi, enregistrées et réalisées par Roland Richard dans les studios du ROCAS de Radio Grand Ciel.